Podcast de l'Avent, une lecture balsacienne pour patienter jusqu'à Noël. Le bal de Sceaux, par Honoré de Balzac, Paris, décembre 1829. À Henri de Balzac, son frère Honoré. Extrait 14 sur 24. Le lendemain, Mademoiselle de Fontaine manifesta le désir de faire une promenade à cheval. Insensiblement, elle accoutuma son vieil oncle et ses frères à l'accompagner dans certaines courses matinales très salutaires, disait-elle, pour sa santé. Elle affectionnait singulièrement les alentours du village habité par Lady Dudley. Malgré ses manœuvres de cavalerie, elle ne revit pas l'étranger aussi promptement que la joyeuse recherche à laquelle elle se livrait pouvait le lui faire espérer. Elle retourna plusieurs fois au bal de Sceaux sans pouvoir y retrouver le jeune Anglais tombé du ciel pour dominer ses rêves et les embellir. Quoique rien n'aiguillonne plus le naissant amour d'une jeune fille qu'un obstacle, il y eut cependant un moment où Mademoiselle Émilie de Fontaine fut sur le point d'abandonner son étrange et secrète poursuite en désespérant presque du succès d'une entreprise dont la singularité peut donner une idée de la hardiesse de son caractère. Elle aurait pu, en effet, tourner longtemps autour du village de Châtenay sans revoir son inconnu. La jeune Clara, puisque tel était le nom que Mademoiselle de Fontaine avait entendu, n'était pas anglaise, et le prétendu étranger n'habitait pas les bosquets fleuris et embaumés de Châtenay. Un soir, Émilie, sortie à cheval avec son oncle, qui depuis les beaux jours avait obtenu de sa goutte une assez longue cessation d'hostilité, rencontra Lady Dudley. L'illustre étrangère avait auprès d'elle dans sa calèche Monsieur de Vandenesse. Émilie reconnut ce joli couple et ses suppositions furent un moment dissipées comme se dissipent les rêves. Dépitée, comme toute femme frustrée dans son attente, elle tourna bride si rapidement que son oncle eut toutes les peines du monde à la suivre tant elle avait lancé son poney.
« Je suis apparemment devenu trop vieux pour comprendre ces esprits de 20 ans, » se dit le marin en mettant son cheval au galop. « Ou peut-être la jeunesse d'aujourd'hui ne ressemble-t-elle plus à celle d'autrefois. Mais qu'a donc ma nièce, la voilà maintenant qui marche à petits pas comme un gendarme en patrouille dans les rues de Paris ? Ne dirait-on pas qu'elle veut cerner ce brave bourgeois qui m'a l'air d'être un auteur rêvassant à ses poésies, car il a, je crois, un album à la main. Par ma foi, je suis un grand sot. Ne serait-ce pas le jeune homme en quête de qui nous sommes ? »
À cette pensée, le vieux marin modéra le pas de son cheval, de manière à pouvoir arriver sans bruit auprès de sa nièce. Le vice-amiral avait fait trop de noirceur dans les années 1771 et suivantes, époque de nos annales où la galanterie était en honneur, pour ne pas deviner sur le champ qu'Émilie avait par le plus grand hasard rencontré l'inconnu du bal de Sceaux. Malgré le voile que l'âge répandait sur ses yeux gris, le comte de Kergarouët sut reconnaître les indices d'une agitation extraordinaire chez sa nièce, en dépit de l'immobilité qu'elle essayait d'imprimer à son visage. Les yeux perçants de la jeune fille étaient fixés avec une sorte de stupeur sur l'étranger qui marchait paisiblement devant elle.
« C'est bien ça !» se dit le marin. Elle va le poursuivre comme un vaisseau marchand suit un corsaire. Puis, quand elle l'aura vu s'éloigner, elle sera au désespoir de ne pas savoir qui elle aime et d'ignorer si c'est un marquis ou un bourgeois. Vraiment, les jeunes têtes devraient toujours avoir auprès d'elles une vieille perruque comme moi. »
Il poussa tout à coup son cheval à l'improviste de manière à faire partir celui de sa nièce et passa si vite entre elle et le jeune promeneur qu'il le força de se jeter sur le talus de verdure qui encaissait le chemin. Arrêtant aussitôt son cheval, le comte s'écria
« Ne pouviez-vous pas vous ranger ?»«
Ah, pardon, monsieur, » répondit l'inconnu. « J'ignorais que ce fût à moi de vous faire des excuses de ce que vous avez failli me renverser. »«
Et l'ami, finissons !»
reprit aigrement le marin en prenant un son de voix dont le ricanement avait quelque chose d'insultant. En même temps, le comte leva sa cravache, comme pour fouetter son cheval, et toucha l'épaule de son interlocuteur en disant
« Le bourgeois libéral est raisonneur. Tout raisonneur doit être sage. »
Le jeune homme gravit le talus de la route en entendant ce sarcasme. Il se croisa les bras et répondit d'un ton fort ému
« Monsieur, je ne puis croire, en voyant vos cheveux blancs, que vous vous amusiez encore à chercher des duels. »« Cheveux blancs ?» s'écria le marin en l'interrompant. « Tu en as menti par ta gorge ils ne sont que gris !»